Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Επίπεδο Γ1 και Γ2. Έναρξη της εξέτασης.
Activité 1. Lisez la consigne. Lisez les hypothèses. Écoutez.
Didier de Coin, bonsoir.
Bonsoir.
Une Anglaise à bicyclette, c'est le titre de votre nouveau roman publié aux éditions Stock. La scène de départ, c'est un massacre d'Indiens de Sioux Lakota, celui de Wounded Knee, qui a lieu en Dakota du Sud. Est-ce que c'était là l'idée de départ de votre roman ?
Je dirais que c'était l'image de départ, parce que j'étais tombé sur les photographies qui ont été prises, ça c'est vrai, de ce massacre qui a eu lieu en 1890 au moment de Noël, partant de Blizzard, c'est-à-dire une plaine entièrement couverte de neige, la neige aussi qui tombe du ciel, et les tuniques bleues, les soldats américains, ont tiré sur des Indiens Sioux Lakota désarmés, hommes, femmes, enfants, qui sont partis en courant, les balles, poursuivis par les balles des mitrailleuses, et qui au fur et à mesure qu'ils étaient touchés, s'écroulaient dans la neige, dans des postures qui sont les postures des gens qui tombent. Et il faisait tellement froid qu'on n'a pas pu les enterrer tout de suite. Je crois qu'ils sont restés 4 ou 5 jours dans la neige, où ils ont durci et où ils ont noirci. Et les photographies qui ont été faites montrent, on croirait des sculptures abstraites en bronze ou des vieux ceps de vigne carbonisés. Et ce sont des êtres humains. C'est quelque chose de terriblement poignant. En plus, moi, j'ai toujours eu une tendresse depuis longtemps pour les Amérindiens. Tendresse et fascination, parce que je suis un homme de l'écrit et que, vous savez, les Amérindiens n'ont pas d'écriture. C'est uniquement l'oralité, et leurs histoires sont pourtant éblouissantes. C'est extraordinaire comment ils sont arrivés à se transmettre uniquement par la parole, la mémoire, des histoires qui mériteraient d'être écrites, quoi.
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses.
Didier de Coin, bonsoir.
Bonsoir.
Une Anglaise à bicyclette, c'est le titre de votre nouveau roman publié aux éditions Stock. La scène de départ, c'est un massacre d'Indiens de Sioux Lakota, celui de Wounded Knee, qui a lieu en Dakota du Sud. Est-ce que c'était là l'idée de départ de votre roman ?
Je dirais que c'était l'image de départ, parce que j'étais tombé sur les photographies qui ont été prises, ça c'est vrai, de ce massacre qui a eu lieu en 1890 au moment de Noël, partant de Blizzard, c'est-à-dire une plaine entièrement couverte de neige, la neige aussi qui tombe du ciel, et les tuniques bleues, les soldats américains, ont tiré sur des Indiens Sioux Lakota désarmés, hommes, femmes, enfants, qui sont partis en courant, poursuivis par les balles des mitrailleuses, et qui au fur et à mesure qu'ils étaient touchés, s'écroulaient dans la neige, dans des postures qui sont les postures des gens qui tombent. Et il faisait tellement froid qu'on n'a pas pu les enterrer tout de suite. Je crois qu'ils sont restés 4 ou 5 jours dans la neige, où ils ont durci et où ils ont noirci. Et les photographies qui ont été faites montrent, on croirait des sculptures abstraites en bronze ou des vieux ceps de vigne carbonisés. Et ce sont des êtres humains. C'est quelque chose de terriblement poignant. En plus, moi, j'ai toujours eu une tendresse depuis longtemps pour les Amérindiens. Tendresse et fascination, parce que je suis un homme de l'écrit et que, vous savez, les Amérindiens n'ont pas d'écriture. C'est uniquement l'oralité, et leurs histoires sont pourtant éblouissantes. C'est extraordinaire comment ils sont arrivés à se transmettre uniquement par la parole, la mémoire, des histoires qui mériteraient d'être écrites, quoi.
Activité 2. Lisez la consigne. Item 6. Écoutez.
La France accepte de rendre les têtes maories à la Nouvelle-Zélande. Ces têtes momifiées et tatouées étaient réclamées depuis des années par la population polynésienne de l'île.
Item 7. Écoutez.
L'implantation de nouvelles éoliennes est-elle menacée dans notre pays par la loi Grenelle 2? Les pro-éoliens ont manifesté aujourd'hui à Paris pour dire leur inquiétude face à des amendements UMP qui risquent de stopper, selon eux, la moitié des projets en cours.
Item 8. Écoutez.
On les appelle les essentiels de la rentrée. Ces fournitures scolaires de base, vendues au prix le plus bas, sont dans les rayons depuis ce matin. Nous verrons dans ce journal qu'elles ne sont pas aussi bon marché que l'an dernier.
Item 9. Écoutez.
Les vols à main armée en hausse de 40% par rapport à l'année dernière à Marseille, plus 14% pour les cambriolages dans les Bouches-du-Rhône. La délinquance explose dans ce département.
Item 10. Écoutez.
À l'Assemblée nationale, les députés ont obtenu un aménagement de la taxation sur les plus-values immobilières et une taxe pour les hôtels de luxe plutôt que pour les parcs à thème.
Écoutez encore une fois les items et complétez vos réponses. Item 6. Écoutez.
La France accepte de rendre les têtes maories à la Nouvelle-Zélande. Ces têtes momifiées et tatouées étaient réclamées depuis des années par la population polynésienne de l'île.
Item 7. Écoutez.
L'implantation de nouvelles éoliennes est-elle menacée dans notre pays par la loi Grenelle 2? Les pro-éoliens ont manifesté aujourd'hui à Paris pour dire leur inquiétude face à des amendements UMP qui risquent de stopper, selon eux, la moitié des projets en cours.
Item 8. Écoutez.
On les appelle les essentiels de la rentrée. Ces fournitures scolaires de base, vendues au prix le plus bas, sont dans les rayons depuis ce matin. Nous verrons dans ce journal qu'elles ne sont pas aussi bon marché que l'an dernier.
Item 9. Écoutez.
Les vols à main armée en hausse de 40% par rapport à l'année dernière à Marseille, plus 14% pour les cambriolages dans les Bouches-du-Rhône. La délinquance explose dans ce département.
Item 10. Écoutez.
À l'Assemblée nationale, les députés ont obtenu un aménagement de la taxation sur les plus-values immobilières et une taxe pour les hôtels de luxe plutôt que pour les parcs à thème.
Activité 3. Lisez la consigne. Lisez les hypothèses du premier extrait. Écoutez le premier extrait.
Une innovation démocratique majeure arrive à Paris. Le budget participatif. Pour la première fois, la maire de Paris remet les clés du budget aux Parisiens. Mais au fait, le budget de Paris, comment ça fonctionne? Il est composé de deux parties. D'un côté, le budget d'investissement pour la construction et la rénovation de bâtiments ou de l'espace public. De l'autre, le budget de fonctionnement qui permet à la ville d'agir au quotidien. Entre 2014 et 2020, les Parisiens pourront décider de l'utilisation de 5% du budget d'investissement, soit 426 millions d'euros. Et dès l'an prochain, ils pourront proposer et soumettre au vote leurs idées pour Paris. Cette année, la ville vous propose de voter parmi 15 projets pour améliorer votre cadre de vie. Les projets les plus populaires seront mis en œuvre à partir de 2015. Pour participer, c'est simple. Vous avez jusqu'à 5 votes pour soutenir vos projets préférés sur le site budgetparticipatif.paris.fr ou en mairie sur bulletin papier. Le budget participatif, c'est 20 millions d'euros, 15 projets pour Paris et une semaine pour voter.
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses.
Une innovation démocratique majeure arrive à Paris. Le budget participatif. Pour la première fois, la maire de Paris remet les clés du budget aux Parisiens. Mais au fait, le budget de Paris, comment ça fonctionne? Il est composé de deux parties. D'un côté, le budget d'investissement pour la construction et la rénovation de bâtiments ou de l'espace public. De l'autre, le budget de fonctionnement qui permet à la ville d'agir au quotidien. Entre 2014 et 2020, les Parisiens pourront décider de l'utilisation de 5% du budget d'investissement, soit 426 millions d'euros. Et dès l'an prochain, ils pourront proposer et soumettre au vote leurs idées pour Paris. Cette année, la ville vous propose de voter parmi 15 projets pour améliorer votre cadre de vie. Les projets les plus populaires seront mis en œuvre à partir de 2015. Pour participer, c'est simple. Vous avez jusqu'à 5 votes pour soutenir vos projets préférés sur le site budgetparticipatif.paris.fr ou en mairie sur bulletin papier. Le budget participatif, c'est 20 millions d'euros, 15 projets pour Paris et une semaine pour voter.
Lisez les hypothèses du deuxième extrait. Maintenant, écoutez le deuxième extrait.
On est deux cofondateurs, Olivier Douin et moi-même, et amis d'enfance. On a réfléchi à ce concept il y a un an et demi, en faisant le constat qu'à Paris, il n'y avait pas d'offre de bateaux sans permis. Donc on a décidé d'implanter cette base de bateaux sans permis et en plus électrique à Paris. On a présenté ce projet à la mairie de Paris, qui a tout de suite été conquis par l'idée. Il y a eu un appel d'offres, puisque c'est la règle, pour voir les différents projets des concurrents. On a gagné cet appel d'offres. On a une flotte de 17 bateaux. Vous pouvez louer ces bateaux pour une heure, une balade sur le bassin de la Villette. C'est plutôt de l'initiation ou avec des petits-enfants. Et ensuite, vous pouvez sortir du bassin de la Villette et découvrir les 20 km de canaux qu'il y a, donc le canal de l'Ourcq. C'est très facile à conduire. On fait bien sûr un briefing sécurité avant que l'équipage parte. On explique les règles de sécurité et ensuite le maniement du bateau. Mais c'est très simple à manœuvrer. Marche avant, marche arrière, droite, gauche. Les clients arrivent très bien à utiliser les bateaux. La bonne nouvelle, c'est que les clients reviennent en fait. Donc on a beaucoup de clients, mais qui reviennent pour découvrir avec d'autres personnes, faire découvrir la navigation à Paris et devenir le propre capitaine de leur bateau.
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses.
On est deux cofondateurs, Olivier Douin et moi-même, et amis d'enfance. On a réfléchi à ce concept il y a un an et demi, en faisant le constat qu'à Paris, il n'y avait pas d'offre de bateaux sans permis. Donc on a décidé d'implanter cette base de bateaux sans permis et en plus électrique à Paris. On a présenté ce projet à la mairie de Paris, qui a tout de suite été conquis par l'idée. Il y a eu un appel d'offres, puisque c'est la règle, pour voir les différents projets des concurrents. On a gagné cet appel d'offres. On a une flotte de 17 bateaux. Vous pouvez louer ces bateaux pour une heure, une balade sur le bassin de la Villette. C'est plutôt de l'initiation ou avec des petits-enfants. Et ensuite, vous pouvez sortir du bassin de la Villette et découvrir les 20 km de canaux qu'il y a, donc le canal de l'Ourcq. C'est très facile à conduire, on fait bien sûr un briefing sécurité avant que l'équipage parte. On explique les règles de sécurité et ensuite le maniement du bateau. Mais c'est très simple à manœuvrer. Marche avant, marche arrière, droite, gauche. Les clients arrivent très bien à utiliser les bateaux. La bonne nouvelle, c'est que les clients reviennent en fait. Donc on a beaucoup de clients, mais qui reviennent pour découvrir avec d'autres personnes, faire découvrir la navigation à Paris et devenir le propre capitaine de leur bateau.
Activité 4. Lisez la consigne. Lisez les hypothèses. Écoutez.
La première île dont je vais vous parler n'est peut-être pas la plus étrange du monde, mais c'est sans doute la plus dangereuse. Située au large de Sao Paulo, l'île de Queimada Grande est inhabitée et son accès est strictement réservé aux scientifiques. Vous devinerez sans doute pourquoi si je vous dis qu'elle est surnommée l'île aux serpents. Queimada Grande possède en effet la population de serpents la plus dense de la planète. Il y en a sur le sol, dans les arbres et même dans l'ancien phare abandonné depuis longtemps. Si c'était des couleuvres, ça pourrait encore passer, mais les serpents de l'île appartiennent tous à une espèce mortelle, les trigonocéphales insulaires. Ces serpents n'existent que sur Queimada Grande, et leur venin, qui est un des plus puissants au monde, fait littéralement fondre la chair autour de la morsure. Pour les herpétologues, l'île est une curiosité unique. Pour le reste de l'humanité, c'est juste un cauchemar.
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses.
La première île dont je vais vous parler n'est peut-être pas la plus étrange du monde, mais c'est sans doute la plus dangereuse. Située au large de Sao Paulo, l'île de Queimada Grande est inhabitée et son accès est strictement réservé aux scientifiques. Vous devinerez sans doute pourquoi si je vous dis qu'elle est surnommée l'île aux serpents. Queimada Grande possède en effet la population de serpents la plus dense de la planète. Il y en a sur le sol, dans les arbres, et même dans l'ancien phare abandonné depuis longtemps. Si c'était des couleuvres, ça pourrait encore passer, mais les serpents de l'île appartiennent tous à une espèce mortelle, les trigonocéphales insulaires. Ces serpents n'existent que sur Queimada Grande, et leur venin, qui est un des plus puissants au monde, fait littéralement fondre la chair autour de la morsure. Pour les herpétologues, l'île est une curiosité unique. Pour le reste de l'humanité, c'est juste un cauchemar.
Activité 5. Lisez la consigne. Écoutez.
Les campus numériques francophones, implantés dans 39 pays sur les 5 continents, relient quotidiennement étudiants, formateurs et chercheurs. L'équipement informatique de pointe, en termes de matériel et logiciel, régulièrement maintenu et mis à jour, se veut précurseur et promoteur des nouvelles technologies auprès des universités adhérentes. Conçu et mis en œuvre par la UF, les campus numériques francophones sont bien plus que de simples points d'accès Internet. Ils constituent un véritable maillage entre les différentes universités. C'est donc une formidable interface et un accélérateur de projets pour tous. Pour les étudiants d'abord, qui ont ainsi accès aux formations à distance et aux diplômes, ensuite pour les chercheurs, professeurs et tuteurs, qui trouvent non seulement des moyens, mais aussi un soutien et un appui pour organiser et structurer leurs actions quotidiennes et leurs futures formations. Auprès de tous les universitaires, enfin, puisque les campus numériques francophones sont un lieu privilégié pour accéder aux informations scientifiques et techniques, mais aussi pour les produire et les partager. Par leur accessibilité, par leur internationalité, les campus numériques francophones constituent la base de la construction et de la consolidation de l'espace scientifique francophone.
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses.
Ouais.
Les campus numériques francophones, implantés dans 39 pays sur les 5 continents, relient quotidiennement étudiants, formateurs et chercheurs. L'équipement informatique de pointe, en termes de matériel et logiciel, régulièrement maintenu et mis à jour, se veut précurseur et promoteur des nouvelles technologies auprès des universités adhérentes. Conçus et mis en œuvre par l'AUF, les campus numériques francophones sont bien plus que de simples points d'accès Internet. Ils constituent un véritable maillage entre les différentes universités. C'est donc une formidable interface et un accélérateur de projets pour tous. Pour les étudiants d'abord, qui ont ainsi accès aux formations à distance et aux diplômes, ensuite pour les chercheurs, professeurs et tuteurs, qui trouvent non seulement des moyens, mais aussi un soutien et un appui pour organiser et structurer leurs actions quotidiennes et leurs futures formations. Auprès de tous les universitaires, enfin, puisque les campus numériques francophones sont un lieu privilégié pour accéder aux informations scientifiques et techniques, mais aussi pour les produire et les partager. Par leur accessibilité, par leur internationalité, les campus numériques francophones constituent la base de la construction et de la consolidation de l'espace scientifique francophone.
Activité 6. Lisez la consigne. Lisez les 5 questions. Écoutez.
C'est Chloé Triomphe qui lit les journaux pour nous. Bonjour Chloé.
Bonjour.
Et notamment ce nouveau dispositif pour lutter contre l'absentéisme scolaire ou une nouvelle offensive de cette habitude de mettre nos vies en fiche informatisée. En tout cas, le débat risque d'être assez houleux car à la rentrée, les collégiens et les lycéens qui sèchent seront répertoriés.
C'est ce que révèle le journal Le Parisien aujourd'hui en France. L'éducation nationale s'apprêterait à mettre ce dispositif en place dès septembre afin de répertorier ce que l'institution appelle les décrocheurs, soit environ 150 000 élèves chaque année qui quittent le système scolaire sans diplôme. Alors accessible aux chefs d'établissement ainsi qu'au personnel éducatif, le logiciel permet d'établir une fiche de l'élève dès ses premiers signes de désintérêt pour les cours. Le but, explique-t-on, offrir des possibilités d'insertion professionnelle au plus tôt. Mais si l'objectif ne vise pas de controverse, eh bien la forme prise par ce fichage pose question, car le logiciel autorise tous les commentaires. Alors la CNIL veille au grain, aucune donnée sensible ne devra y figurer, rien sur le contexte familial, social ou relatif à la santé de l'élève. Pour l'instant, les associations d'élèves ne sont pas très enthousiastes, c'est donc à suivre.
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses.
C'est Chloé Triomphe qui lit les journaux pour nous. Bonjour Chloé.
Bonjour.
Et notamment ce nouveau dispositif pour lutter contre l'absentéisme scolaire ou une nouvelle offensive de cette habitude de mettre nos vies en fiche informatisée. En tout cas, le débat risque d'être assez houleux car à la rentrée, les collégiens et les lycéens qui sèchent seront répertoriés.
C'est ce que révèle le journal Le Parisien aujourd'hui en France. L'éducation nationale s'apprêterait à mettre ce dispositif en place dès septembre afin de répertorier ce que l'institution appelle les décrocheurs, soit environ 150 000 élèves chaque année qui quittent le système scolaire sans diplôme. Alors accessible aux chefs d'établissement ainsi qu'au personnel éducatif, le logiciel permet d'établir une fiche de l'élève dès ses premiers signes de désintérêt pour les cours. Le but, explique-t-on, offrir des possibilités d'insertion professionnelle au plus tôt. Mais si l'objectif ne vise pas de controverse, eh bien la forme prise par ce fichage pose question, car le logiciel autorise tous les commentaires. Alors la CNIL veille au grain. Aucune donnée sensible ne devra y figurer, rien sur le contexte familial, social ou relatif à la santé de l'élève. Pour l'instant, les associations d'élèves ne sont pas très enthousiastes. C'est donc à suivre.
Τέλος της εξέτασης. Καλή επιτυχία!